La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête.
Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Et si nous posions un nouveau regard sur le vivant qui nous entoure pour en découvrir une autre organisation? Au-delà de l'évolution des espèces telle qu'elle est décrite avec la théorie de l'évolution, il existe une autre façon d'envisager toutes les entités vivantes qui peuplent notre planète. Et cette idée repose sur de grands réseaux de transmission dans lesquels sont intriqués les organismes à toutes les échelles. Des interactions permanentes et complexes qui permettent d'explorer autrement justement les relations qui gouvernent le vivant pour en comprendre les origines. Le biologiste Éric Batteste publie « Tous entre aux éditions Belin. C'est un ouvrage percutant sur ces réseaux de l'évolution en œuvre entre les différents organismes. Il est mon invité dans un instant. C'est le sujet de cette tête au carré avec vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, des drogues de synthèse à la mode qui inquiètent beaucoup les autorités.
Oui, après un mois de mars marqué par de nombreux incidents à Paris liés au GHB et au GBL moins connus, les inquiétudes montent autour de ces substances et on en discute avec l'addictologue William Lowenstein.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir au secret du pharaon Toutankhamon. C'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Anna Massardi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les grands réseaux de l'évolution dans le monde vivant, ce sera donc le dossier de l'émission cet après-midi avec vous, Éric Batteste. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Tous entrelacés, c'est aux éditions Belin. Et ce que vous nous montrez, eh bien, c'est une organisation du monde vivant prodigieusement diversifiée. C'est une façon de lever de nouveaux mystères sur l'évolution et le monde biologique.
C'est certainement une perspective concentrée sur les organisations qui amènera à découvrir probablement des principes au sujet de ces organisations.
Ouais, donc c'est un travail en cours, on pourrait dire les choses comme ça.
C'est un travail en cours.
Ouais. Et qu'est-ce que vous espérez découvrir alors à terme?
Ce que j'espérerais découvrir, c'est par exemple s'il y a des codes, à l'instar du code génétique, qu'on n'a pas encore découvert, des codes symbiotiques pour savoir comment des hôtes s'associent avec leurs microbes. Ce que j'espérerais découvrir, c'est des nouveaux assemblages, des nouveaux symbiontes, des nouvelles associations. On connaît les algues, mais il y a d'autres choses que les algues. Par exemple, quand je récupère une mitochondrie, ça n'est jamais arrivé. Peut-on découvrir qu'on pourrait récupérer une mitochondrie?
Bon, eh bien, on va discuter de tout ça ensemble. C'est une vaste réflexion, à la fois dans le domaine de la biologie et aussi de la philosophie des sciences, au fond. Et puis, les auditeurs vont nous rejoindre avec des questions pour vous. Je vous transmettrai dans un instant franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et alerte sur les drogues GHB, GBL à la une de la science aujourd'hui après un mois de mars mouvementé à Paris.
Les fêtards en ont fait leur cocktail préféré. Cette drogue dure, c'est la GBL. Les chiffres font froid dans le dos. 10 cas d'overdose en à peine 3 mois, dont un décès. Les faits remontent à mars dernier dans un établissement du 13e arrondissement. Une soirée qui a rapidement viré au cauchemar.
C'est quelqu'un qui avait simplement pris une bouteille d'eau qui traînait. En club, on prend pas une bouteille d'eau qui traîne parce qu'on ne sait pas quelle substance on trouve dedans.
Voilà, et depuis un mois, 7 intoxications impliquant du GHB ou du GBL ont eu lieu à Paris, dont un accident qui a entraîné la mort d'un jeune homme de 24 ans. C'était le 10 mars dernier. L'acide gamma-hydroxybutyrique ou GHB, c'est donc un anesthésiant, également appelé la drogue du violeur, puisqu'il rend docile et incontrôlable lorsqu'il est ingurgité à son insu. Également consommé de manière récréative, il est au centre des inquiétudes dans le monde de la nuit. Et on en discute avec notre invité, Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec William Lowenstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin interne en addictologie et vous êtes également fondateur et président de l'association SOS Addiction. Alors le GHB, les gens connaissent grâce à ce surnom, la drogue du violeur, mais le GBL est beaucoup moins connu. Pourtant, ces drogues sont très similaires au final.
C'est le GBL qui est le précurseur du GHB, c'est-à-dire qu'il se transforme une fois ingéré dans le corps humain en GHB. C'est juste un précurseur et tout ça est de la famille du gamma-OH, pour vous asséner un autre nom, qui a été très utilisé et découvert d'ailleurs par un de nos grands savants, Henri Laborie, qui en vantait les mérites contre la dépression, donc les mérites euphorisants, mais aussi la restauration du rêve éveillé, du sommeil paradoxal.
Donc c'est une drogue au final utilisée par les médecins en premier lieu.
Oui, c'est une drogue qui est bien connue des réanimateurs, des anesthésistes, parce que ça permettait de faire des interventions assez courtes avec ce gamma OH, donc de la même famille, hein, vous l'avez compris, que le GBL ou le GHB. Ça permettait de faire des interventions parfois douloureuses, sans faire d'anesthésie générale avec des produits lourds. Après, sont apparus quelques mésusages dans le milieu médical ou vétérinaire lui-même, puis ensuite dans les milieux festifs comme ceux des rêves, pas mal dans les milieux avec hyperactivité sexuelle, notamment ceux des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et là, c'est en train de débarquer à cause de ce GBL industriel commandable sur Internet, de façon, je dirais, plus mixte et plus jeune, d'où la dangerosité, parce qu'il y a beaucoup moins d'informations précises qui circulent sur le sujet.
Mais quand est-ce qu'est apparu ce terme de drogue du violeur, et d'ailleurs, pourquoi on l'appelle comme ça ?
Alors, c'est une drogue, le terme en lui-même est déjà assez ancien, et était... En effet, pour le gamma OH ou le GHB, parce que ces liquides étaient incolores, inodores et sans saveur. Donc ils étaient très difficilement repérables, ce qui amène toujours, parce que ce ne sont pas les seuls, hein, les comme drogue pour zombifier quelqu'un, pour le soumettre chimiquement, vous avez des classiques, si j'ose dire, comme les somnifères. S'ils sont pilés dans un verre, ça amène toujours à rappeler quasiment à tous ceux qui vont en boîte, et quel que soit leur âge, mais les plus jeunes en particulier, qu'on boit pas dans un verre qui n'est pas identifié, et que de façon encore plus générale, on surveille son verre, ou alors on prend une bouteille qui soit déjà fermée.
William Lowenstein, comment vous expliquez-vous justement cette flambée de la consommation et du coup des accidents dont on parle de plus en plus là, ces derniers temps quand même ?
Oui, là, encore une fois, c'est une vieille histoire, mais elle a changé, si j'ose dire, de milieu, d'une part, et d'autre part, elle a changé de prix aussi, parce qu'avant, ces ampoules étaient, ce dont je vous parle, c'était avant l'interdiction, c'est-à-dire en 1999. Donc vous voyez que l'histoire est quand même ancienne, de la drogue du violeur, et puis de ses dangerosités liées à la fête. Là, c'est typiquement les bonnes recettes Internet et les solvants industriels. Et quand il y a déjà une dizaine d'années pour le GHB lui-même, ces produits qui servent à nettoyer les graffitis ou les jantes de voiture avaient été repérés comme détournés de leur usage initial et pouvant être dangereux pour faire la fête, il avait été décidé de faire des recommandations aux industriels. Exactement comme il y a 40 ans, ça avait été fait pour les cols, vous savez, que certains sniffaient. Et en Europe, ça a été plus bien fait. Maintenant, se défoncer en sniffant de la colle, c'est compliqué en Europe. Mais ça reste, par exemple, en Afrique, très fréquent. Je vais devoir ouvrir, pardonnez-moi.
Absolument, on est en direct et vous avez des patients.
Les plaisirs du direct, donc voilà. Je reviens dans 30 secondes.
Mais on va combler le direct, évidemment. Sans aucun problème pour parler de cette actualité.
Ce qu'on peut dire, Mathieu, c'est que le GHB est un médicament, mais par contre, le GBL est un solvant. Et donc, il est beaucoup plus dangereux de l'utiliser parce que les dosages sont plus compliqués. Et comme, en plus, dans l'eau, il se dilue plus vite, on a tendance à mal doser et donc à faire des cas de surdose. Est-ce qu'on prépare notre prochaine question en attendant William Lowenstein ?
Il va arriver, sauf si, évidemment, son appartement est très, très grand et que ça lui demande du temps. Mais il est là, William Lowenstein, au bout du fil.
Pardon.
Voilà.
Oui. On disait William Lowenstein, est-ce qu'il y a des risques particuliers avec le GBL, puisque c'est un solvant et pas un médicament, j'ai envie de dire ?
Oui, bien sûr, il y a quelques risques toxiques et d'agression, à la fois sur le foie, sur les reins, qui vont se rajouter. Mais les risques principaux sont ceux de la famille gamma-OH, GHB. C'est-à-dire ces risques de ralentissement de la fréquence respiratoire, jusqu'à la pause respiratoire, jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ça monte très progressivement, le GBL, à cause de cette transformation dans le corps, en 3 à 5 heures. Vous rajoutez les dépresseurs habituels, si j'ose dire, comme l'alcool et parfois d'autres médicaments, et là, on a le risque de dépression cardio-respiratoire.
Est-ce qu'il existe des moyens de détection de ces GHB, par exemple, dans un verre qui pourrait nous annoncer qu'on a été drogué ?
Non, il n'y a pas de... Quand il y avait la même chose avec un médicament somnifère qui s'appelait le rohypnol, il avait été demandé au fabricant du Rohypnol, qui est un somnifère, hein, donc, de le colorer. C'est-à-dire que quand les petits pervers mettaient ça dans un verre pour pouvoir abuser d'une personne, ça donnait une couleur verte après cette transformation. C'est une des voies aussi qu'il faudrait peut-être conseiller à ces industriels qui savent très bien que tout le GBL vendu ne l'est pas uniquement pour nettoyer les graffitis.
Tu crois qu'aux États-Unis aussi un vernis a été testé under color pour tenter de détecter ce GHB? Est-ce qu'il est vraiment facile sur Internet de se procurer ce GBL?
Oui.
Malheureusement,
oui. Hélas, oui.
C'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement en ce moment, justement, SOS Addiction.
Qui est lié vraiment à tous les NPS, c'est-à-dire les nouveaux produits de synthèse, hein, et qui dit bien les limites des interdictions, des prohibitions et l'importance du savoir plus pour risquer moins, parce que maintenant tout est commandable, et pas simplement sur le darknet, hein, où tout le monde ne sait pas aller, mais tout est commandable pratiquement sur le net.
On nous demande sur Internet quels sont les premiers symptômes qui pourraient à noter qu'on a été drogué, et donc pour réagir le plus vite possible.
Alors c'est évidemment les sensations d'étrangeté, les caractéristiques de la prise de GHB, hein, ou de GBL sont à la fois d'être euphorisante, relaxante, désinhibante, d'une sorte d'ivresse. Un patient me disait, pour sa consommation de GHB, il me disait, écoute, c'est de l'ecstasy en plus onctifiant. Donc ce côté un peu se sentir quasiment conduite semi-automatique, bien trouver qu'on est à la fois en forme et complètement zombie, ou en train de le devenir. Oui, là, on se dit, si il n'y a pas eu de prise de produit personnel, il se passe vraiment quelque chose. Donc, le plus important, c'est d'appeler quelqu'un à l'aide. Et rappelons que tous les jeunes qui sortent, ils ont le droit d'appeler leurs parents. Et que les parents ont toujours le droit de dire, écoute, je te déconseille de faire ceci et cela. Mais si tu es dans le besoin, que ça soit 3h ou 5h du matin, tu peux toujours m'appeler. Bon, je t'engueulerai après, mais je viendrai te chercher d'abord. Et puis, le deuxième point, partir le plus rapidement possible, à condition d'avoir téléphoné à un proche, d'avoir prévenu quelqu'un, donc, et de tenir sur ses jambes.
Merci beaucoup, William Lomonchal. On va vous laisser à votre passion.
Merci à vous.
Et puis, on peut signaler ce livre, Tous addicts et après, changer le regard sur les dépendances, que vous avez publié il y a quelques mois chez Flammarion, avec Laurent Carilla. Merci
Laurent,
beaucoup.
Laurent, absolument. Et bonne mitochondrie à tous. Ça a l'air passionnant.
Absolument. L'usine des cellules nous attend. Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt. Merci, Axel. À demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, quand l'Agence américaine du médicament autorise une intelligence artificielle à poser un diagnostic, eh bien c'est fait, l'intelligence artificielle nommée IDXDR est donc maintenant autorisée par la FDA à fournir une décision de dépistage sur la rétinopathie diabétique. Cette complication liée au diabète de type 2 fragilise la paroi de micro-vaisseaux sanguins qui irriguent la rétine. Et pour détecter cette maladie, l'algorithme analyse des images d'yeux capturées par une caméra rétinienne. Pour cette affection qui touche un patient diabétique sur deux, le dispositif dont le diagnostic est juste 9 fois sur 10 permettrait donc d'augmenter la proportion de dépistage de cette dégradation, souvent tardivement détectée par les yeux humains. Le colibri de Costa et sa cour acrobatique acoustique, une étude publiée dans la revue Current Biology nous apprend que cet oiseau de 9 cm seulement, doté d'une collerette mauve, ça donne à des figures acoustiques pour attirer la femelle. L'animal aux couleurs vives, après avoir dansé justement pour sa femelle, s'éloigne et exécute un plongeon vers elle qui produit alors un sifflement strident grâce au passage de l'air dans les plumes. Grâce à l'orientation parfaite des plumes de la queue et des ailes, eh bien cet oiseau parvient à amplifier plus de 10 fois le son du sifflement en direction de la femelle et à atteindre les 11 décibels. Une prouesse pour un animal si petit. Et puis un couple de Bretons qui tombe nez à nez sur un morceau de fusée. C'est arrivé au propriétaire d'une ferme située sur l'île de Kémener. Ce couple a découvert une grosse coupole de 2 mètres à peu près de diamètre, échouée sur la plage à marée basse. Dessus, une petite plaque indiquant SpaceX, le constructeur américain de lanceurs. L'objet serait le nez de la capsule Dragon qui sert à ravitailler la station spatiale internationale. Ce nez est éjecté une fois que le véhicule quitte l'atmosphère, ajoute le site de la NASA. Vous pouvez voir la vidéo de l'éjection de la capsule sur la page Facebook de La Tête au Carré. Un monde vivant entrelacé, c'est le dossier de l'émission dans un instant. What was
There's plants and trees. Make a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing and describing, and I can be your guide. The skin is just a roadmap. The view is very nice. Imagine looking at a picture. Imagine driving in a car. Imagine rolling down the window. Imagine opening the door. Everybody's coming in my house. Everybody's coming in my house. I'm never gonna be alone, and I'm never gonna go back home. We're only tourists in this life, only tourists, but the view is nice. And we're never gonna go back home. No, we're never gonna go back home. All right.
David Byrne à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Éric Batteste, vous êtes directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie évolutive et en philosophie de la biologie, et vous publiez donc cet ouvrage « Tous entrelacés, des gènes aux super-organismes, les réseaux de l'évolution ». On va expliquer tout ça aux auditeurs, ça paraît aux éditions Belin, un ouvrage dans lequel vous racontez finalement que le monde biologique repose sur une diversité de réseaux, sur des interactions très complexes, le monde qui nous entoure, le monde dont nous sommes constitués aussi, et quels que soient d'ailleurs les organismes, du plus petit au plus grand, hein, toutes les échelles vraiment vous les abordez. Alors d'abord, racontez-nous un petit peu dans quoi s'inscrit ce travail. Ce sont des travaux, là, vous, que vous menez à la suite des grands biologistes qui vous ont précédé, comme Darwin, par exemple, ou Wallace ?
Alors, réellement, c'est une réflexion théorique, plus que des travaux qui sont mis en œuvre, plus que des analyses de tous ces réseaux. Il y a des gens qui analysent ces réseaux. Mmh. Les biologistes des systèmes le font, par exemple. Mais moi, à la base, je suis un évolutionniste classique, c'est-à-dire que j'ai commencé par étudier les relations de parenté. Nous sommes tous cousins, nous sommes tous frères, ces choses-là. Mais je me suis aperçu rapidement qu'avec ce type de description du monde vivant, je ne pouvais pas comprendre la richesse de la complexité du monde vivant. Il me fallait autre chose en
c'est
plus.
Ça. Donc vous butiez sur quelque chose et vous êtes dit finalement il faut aller au-delà des théories qu'on nous propose aujourd'hui autour de l'évolution et explorer d'autres champs.
Sans nécessairement incriminer les théories, se dire que savoir qui est parent de qui, c'est un type de question, mais savoir qui interagit avec qui, c'est un autre type de question. Mmh. Et les interactions étant partout en biologie, pouvoir décrire les interactions et leur évolution me paraît essentiel.
Oui, c'est ça au fond. Hein. La vie, quoi, c'est une grande interaction entre tous les organismes et aucun n'échappe à ce qui se passe à côté, on pourrait presque dire ça. Hein. Et surtout pas Homo sapiens d'ailleurs. Hein.
Alors, plusieurs choses. Je pense qu'il y a des interactions entre beaucoup d'organismes. Alors, ils ne sont pas tous en train d'interagir les uns avec les autres. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut identifier la structure de ces interactions. Qui interagit avec qui? Ce n'est pas tout le monde avec tout le monde. Ah, il y a des règles. Quelles sont les règles? Est-ce que ça a changé au cours du temps? Et effectivement, nous faisons partie, nous sommes inclus dans ces réseaux d'interaction.
Nous, Homo sapiens, donc oui. C'est bien ça. On n'est pas exclu, on n'est pas à côté, on n'est pas au-dessus, comme souvent d'ailleurs on nous l'a présenté. Mais nous sommes évidemment dans cette dynamique, hein, parce que c'est très vivant ce que vous nous racontez, hein, au fond. Hein.
Et c'est ça qui intéresse aussi l'évolutionniste. C'est le changement et les stases. Comment, au cours du temps, certaines relations se maintiennent, d'autres sont transitoires, d'autres sont perdues. Ouais. Donc oui, c'est éminemment dynamique.
Ouais.
Et le monde d'hier n'était pas le monde d'aujourd'hui. Ouais. Et le monde d'il y a encore plus longtemps, il y a 3 milliards et demi d'années, était certainement très différent.
Voilà.
Mais je suis prêt à parier que dans ce monde très ancien, tout était déjà collectif.
Ouais. Et effectivement, le monde qui vient, l'avenir aussi qui se dessine, ne ressemblera pas forcément aussi au monde qui existe aujourd'hui. Et ça, c'est finalement toute la définition de l'évolution et de ses changements et de sa complexité.
C'est à la fois une définition qui est un défi pour comprendre l'évolution, parce qu'on aimerait bien que l'évolution de demain ressemble à l'évolution d'aujourd'hui, comme ça on pourrait faire des prédictions. Mmh. On aimerait bien que l'évolution d'hier ressemble à l'évolution d'aujourd'hui,
pratique,
comme
hein.
ça on pourrait faire des rétrodictions, dire ce qui s'est passé autrefois.
Évidemment.
Mais finalement, il y a des moments dans l'évolution où il se passe de l'accidentel, des surprises, des contingences. Et ça, c'est très excitant pour réfléchir à l'évolution.
Alors justement, si on avait la possibilité de connaître exactement comment les choses allaient se passer, ça pourrait, d'un point de vue des applications, par exemple dans le domaine de la santé, nous apporter des clés extraordinaires. Hein.
Moi, je trouve ça fascinant, parce que je suis un évolutionniste traditionnel à la base. Mmh. Et par conséquent, je me demandais, avec curiosité, est-ce qu'on peut parler du passé? Est-ce qu'on peut connaître des choses qui se sont passées il y a 2 milliards d'années, 1 milliard d'années? Et puis, un jour, je rencontre un médecin qui, lui, est en train de développer finalement des traitements contre les virus à venir. Et il me dit, mais moi aussi, je suis un évolutionniste. Et là, je réalise que l'évolutionnisme, c'est une science qui s'intéresse au passé, mais qui concerne également l'avenir. Donc oui, évidemment, comprendre comment le vivant évolue, ça a des implications pour savoir pragmatiquement comment gérer des problèmes de santé, par exemple.
Alors, Éric Battès, ça, ce sont les promesses, hein, évidemment, qui se cachent derrière ce travail à la base philosophique, à la base théorique, comme vous venez de nous le dire. Comment concrètement est-ce qu'on peut observer tout ce dont vous venez de nous parler, là, déjà, qu'on va détailler dans un instant, mais ces interactions extrêmement complexes entre certains organismes, en tous les cas, est-ce qu'il y a moyen de les voir à la loupe d'un microscope, par exemple, ou pas ?
Je vais commencer à une échelle plus petite, si vous me permettez. Je vais commencer à l'échelle des molécules. Si on veut savoir, par exemple, si des protéines, qui sont des petits robots dans la cellule, interagissent, on peut regarder s'ils sont exprimés, présents dans la cellule au même moment. On peut regarder s'ils sont présents dans la même cellule au même moment et au même endroit. Ça donne des clés. On dit, ah, présent au même moment, présent au même endroit. Il y a potentiellement une interaction entre vous. C'est une des manières de faire. On peut éliminer des gènes qui codent pour ces protéines et voir qu'à ce moment-là, le vivant dysfonctionne ou pas. Donc au niveau moléculaire, on peut observer les molécules. Mmh. Au niveau des organismes, là, il y a un défi. Parce que si on est dans des organismes unicellulaires, il faut pouvoir les cultiver en laboratoire pour pouvoir les observer sous le microscope. Or, il y a une minorité des organismes qui se cultivent en laboratoire. Et d'habitude, on cultive généralement des organismes qui sont proches parents, la même souche de bactéries. Mmh. Donc s'il y a des interactions entre des organismes qui ne sont pas proches parents, c'est très difficile
on
à voir.
On ne les voit pas du coup. Donc,
pas immédiatement.
Ça veut dire qu'on limite les choses finalement par l'expérimentation, alors qu'on pourrait ouvrir un champ beaucoup plus large.
En fait, c'est dur de cultiver ensemble des communautés.
Ouais.
On a bien finalement la connaissance du fait qu'il y a des communautés microbiennes sur la planète et qu'elles sont composées de nombreuses espèces. Et on sait aussi, c'est une réalité pratique, que quand on veut les faire pousser en laboratoire, ces communautés microbiennes, on perd énormément de leur diversité.
Mmh.
Donc ici, ce n'est pas un manque de volonté ou de réalisme, c'est une vraie difficulté technique. Mais il reste des traces de ces interactions.
Ouais. En chimie, on parle de l'effet cocktail, hein, pour justement exprimer la façon dont différentes molécules peuvent agir ensemble, justement quand elles se présentent, hein, quand elles sont confrontées les unes aux autres. Et on voit toute la complexité, justement, d'étudier ces effets cocktail. C'est exactement la même chose dans ce domaine de la biologie, finalement. Parce que les interactions sont tellement nombreuses que pour arriver à les décrire toutes ensemble,
oui, et dans le bon
c'est un travail
ordre.
De titan, là. Hein.
C'est un travail de titan si on souhaite aller dans cette direction-là. Mais d'une certaine manière, c'est un défi qu'on a peut-être envie de se poser, parce que Darwin nous incite à penser à l'origine et à l'évolution des espèces. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est sur la planète et qu'il se passe tout un tas de choses, de la pollution, et on a envie de comprendre l'évolution des écosystèmes. Donc on est contraint, poussé à penser plus large que l'évolution des espèces isolées, fussent-elles cultivables en laboratoire.
Oui, mais alors, c'est justement, c'était vraiment la conception auparavant de la théorie de l'évolution, c'était une espèce d'isolationnisme des espèces entre elles. On n'a pas ce sentiment, quand même.
Non, mais je pense que pour expliquer l'évolution, les modèles classiques, qui sont largement inspirés de l'évolution des modèles animaux, se concentrent de façon privilégiée sur certaines unités, certains objets, qui sont les lignées, qui sont les espèces, et on a des sciences telles que la génétique des populations, qui se concentrent sur les populations au sein de ces espèces, qui sont absolument prééminentes en biologie. Donc, les sciences très importantes se concentrent sur des modèles qui appartiennent à des espèces et sur des populations qui appartiennent à des espèces. Et ici, le défi, c'est de dire, et si on voyait plus large, comment on transformerait les disciplines de la biologie pour pouvoir voir autre chose que ce qui se passe à l'intérieur de mon espèce ou dans mon espèce modèle.
Parce qu'on avait quand même cette image de cet arbre buissonnant du vivant avec toutes les espèces représentées, et l'homme qui avait sa place d'ailleurs au milieu de cet arbre, et pas forcément en son sommet. Mais là, vous allez encore plus loin finalement
Je pense qu'il faut aller plus loin que cette image-là pour plusieurs raisons. D'une part, dans cette image, il faut inclure les virus, qui sont les entités les plus abondantes sur la planète. Or, elles ne sont pas éminemment apparentées aux organismes cellulaires dont nous faisons partie, donc comment les rattacher à cet arbre buissonnant, ce réseau que vous avez décrit. Et d'autre part, cet arbre-là, il ne pousse pas hors sol, il est ancré dans la planète. Planète, paysage, qui se transforme. Donc, il y a des relations entre différents composants qui font l'histoire du vivant. Certains de ces composants sont vivants, certains sont apparentés, d'autres ne sont même pas vivants, mais influencent l'évolution.
Donc ce sont toutes ces imbrications qu'il faut prendre en compte, et c'est absolument passionnant parce que c'est vraiment un nouveau regard aujourd'hui aussi sur l'évolution. C'est le thème de cet ouvrage « Tous entrelacés, des gènes aux super-organismes ». Éric Batteste, vous êtes notre invité cet après-midi. Cannibale et la voix de Calypso Valois.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Éric Batteste est notre invité, tous entrelacés. Quel titre torride pour parler des gènes jusqu'au super-organisme. Et cet ouvrage paraît chez Belin. Hervé Le Guyader, un professeur de biologie qui a signé justement la préface du livre, parle d'une véritable révolution intellectuelle avec un fond rouge. Donc c'est pour nous dire que évidemment on est sur un terrain qui bouscule aussi un petit peu les théories admises jusqu'à maintenant. Comment vous vous situez justement par rapport à ces théories de l'évolution, Hervé Batteste? Éric Batteste, pardon.
Alors d'abord, je remercie Hervé Le Guyader qui a été mon professeur, un directeur du MR formidable. Mmh. Et je dois dire que je suis très très sensible à la préface qu'il a faite. Je dois dire aussi que les réflexions que j'ai menées ici ont pour but d'élargir la théorie de l'évolution. Elles n'ont pas pour but de substituer à une théorie darwinienne une théorie lamarckienne. Mmh. Mon propos n'est pas lamarckien, par exemple. Donc mon travail, suite aux travaux d'Hervé Le Guyader, à ce qu'il m'a enseigné, c'est de me poser des questions. Comment on pourrait mieux décrire l'évolution? Comment on pourrait mieux parler de l'évolution d'une manière plus complète? Donc finalement, c'est pas une position doctrinale, c'est vraiment un souci de pragmatisme. J'ai envie de décrire plus de phénomènes évolutifs. Mm-hmm. Comment je fais? Il me faut des outils, ouais. Ce seraient les réseaux.
Ouais. Et alors du coup, vous ouvrez une complexité folle, hein. C'est ce que vous dites aussi. Hein. C'est que finalement, en ouvrant cette porte-là, il y a une espèce de dynamisme incroyable qui fait que là aussi, oui, la compréhension est encore plus difficile. Hein.
Mais j'aimerais vous reprendre. J'aimerais dire que je n'ouvre rien. Parce qu'en réalité, ce sont mes collègues biologistes qui étudient cette complexité et ils l'étudient déjà. Mmh. Et ce que je montre dans l'ouvrage, c'est la diversité des réseaux et des interactions qui sont déjà connues des biologistes. Il y en a d'autres à découvrir, mais déjà à réfléchir sur ce qui est connu, le modéliser sous forme d'interaction qui peut se représenter par un réseau, qui touche qui interagit avec qui, ça, c'est déjà beaucoup de travail qui peut se faire sur la base des réseaux déjà décrits. Ouais, donc beaucoup de gens ont ouvert pour moi.
Oui, mais c'est ça qui est incroyable. Comment vous expliquez ce qui peut sembler presque un paradoxe? C'est-à-dire que ces phénomènes, ces mécanismes, au fond, on les a sous les yeux dans les laboratoires, on les connaît, mais on ne les a pas expliqués encore?
Mais écoutez, c'est un peu naturel, pour plein de raisons. Je vais insister sur une seule. Nos modèles ont vocation à simplifier la complexité. Or, on est biologiste, on sait que le monde il est complexe, donc il y a une tension. Est-ce que je travaille avec un modèle simple du monde, ou est-ce que progressivement j'ajoute des éléments à ce modèle pour me rapprocher de la réalité? Alors moi, je suis volontiers dans cette tendance-là. Le modèle simple explique un certain nombre de choses, mais il n'expliquera pas tout. Et pour les phénomènes d'interaction, il faut des modèles plus compliqués qui montrent les dépendances. Beaucoup des modèles simples travaillent sur les indépendances. Et ça, à mon sens, ça n'est pas suffisant.
Voilà, donc ces dépendances, ces réseaux, ces entrelacements, finalement, vous vous situez où par rapport à la discipline scientifique, justement, Éric Batteste? Est-ce que vous êtes plutôt un marginal de l'évolution ou est-ce que vous ralliez d'autres scientifiques de plus en plus nombreux à votre cause, au fond?
Je n'en sais rien. Je pense que ça doit dépendre, cette perception doit dépendre du continent sur lequel on se trouve. Je pense qu'il y a une sociologie des sciences qui fait que certains aspects de la théorie de l'évolution sont plus importants, par exemple en France, bien reconstruire les arbres et les relations de parenté, tandis que ces aspects sont probablement moins importants aux États-Unis ou au Canada, où on est plus intéressé par penser en système.
Ah oui, donc il y a vraiment quelque chose de culturel aussi, hein,
je pense, sur la façon dont on apprend la question. Et tout ça est normal. Il est à la fois normal d'avoir des modèles qui réduisent la complexité, de même qu'il est normal d'avoir des dynamiques dans les sciences qui étudient cette complexité.
Bon, ce qui est amusant, c'est que la théorie de l'évolution elle-même n'échappe pas à l'évolution, hein, puisque, bien justement, elle doit aussi changer selon les nouveaux modèles. Hein, elle n'est pas figée, et en tout cas, bah, vous la bousculez un petit peu.
Mais moi, ce qui me semble fondamental, c'est de l'élargir. Pourquoi? Parce que je veux raconter plus que l'évolution des espèces. Alors, en fait, ce qui est fondamental, je voudrais raconter l'évolution des processus. Les processus qui amènent les espèces à naître sur Terre, à s'y maintenir. C'est pas le même objet d'étude.
Ouais. Et ça, c'est un travail que vous faites depuis maintenant un certain temps. Et vous essayez d'explorer différentes formes, d'ailleurs, pour le faire. Hein, pour en parler, d'ailleurs, aussi au grand public. Je trouve que c'est un avantage, une qualité que vous avez. Vous avez, par exemple, publié en 2015 un thriller scientifique qui s'appelait Conflit intérieur, qui décrivait déjà, d'ailleurs, ces relations de compétition, par exemple, entre différentes espèces.
Hein. Oui, absolument. La compétition dans le monde vivant, le parasitisme, le superparasitisme et la coopération. Parce que finalement, le biologiste arrive avec ses mots d'humain et il regarde le monde et il dit « Oh, ces deux espèces sont en compétition. » Et puis ces deux-là sont en coopération. Mais finalement, tout ça est beaucoup plus mécanique, à mon sens. Il y a beaucoup d'interactions. Est-ce qu'on gagne à les qualifier de compétition ou de coopération? Dans le cadre d'un roman, oui, parce qu'on peut s'inspirer. On peut dire comment je pourrais être un très bon compétiteur, prenons tous les cas de compétition. Comment je pourrais être un coopérateur, prenons tous les cas de coopération. Mais ce qui est essentiel au sujet du vivant, c'est la complexité.
Alors, Paul, sur franceinter.fr, une question pour vous, Éric Batteste. Il dit, ben voilà, la vie est en constante évolution. Est-ce qu'elle invente, justement, beaucoup de nouvelles formes de vie?
Oui, la vie invente beaucoup de nouvelles formes d'évoluant, ce qui m'intéresse encore plus parce que je m'intéresse à ce qui évolue. Je n'ai pas de définition de ce qui est vivant, je suis incapable d'en donner une. Je ne sais pas si les virus sont vivants ou pas vivants, mais cela n'est pas important pour moi, je sais qu'ils évoluent. Mmh. Je ne sais pas si les langues sont vivantes ou pas vivantes, j'ai une petite idée, mmh. mais ce n'est pas important pour moi car elles évoluent.
Donc ce n'est pas tellement les définitions qui vous intéressent
hein. Ici, c'est de savoir que tout ce qui évolue intéresse l'évolutionniste. Et parmi ce qui évolue de nouveau, il y a notamment beaucoup d'éléments génétiques mobiles. Ces véhicules à gènes qui les font voyager entre les cellules, ils s'en inventent énormément, de nouveau, avec des noms très barbares.
Oui, vous aviez écrit aussi là-dessus sur les gènes sauteurs, hein, c'est ça. Et ça voulait exprimer quoi finalement, cette idée qu'un gène pouvait sauter d'un lieu à un autre?
Cette idée, elle est importante, elle est la suivante. Est-ce que toutes les propriétés qu'un individu, un organisme exprime proviennent de son ancêtre et d'une lignée, ou est-ce que finalement, il peut avoir des propriétés qu'il a acquis à l'extérieur de sa lignée? Est-ce que vos voisins ont influencé votre façon d'être ou seulement vos parents? Et la réponse, c'est les voisins influencent. Et c'est extrêmement important.
Voilà. Et jusqu'à maintenant, on s'était plutôt intéressé aux liens de parenté. On pourrait presque dire les choses comme ça. Alors maintenant, il faut justement voir le voisinage. Hein,
oui, plus parce que qu'il la faudrait faire la part des choses, savoir qu'est-ce qui provient des ancêtres et qu'est-ce qui provient des voisins.
On en a souvent parlé dans l'émission, Éric Batteste, c'est la symbiose. Lorsqu'un organisme tire profit d'un autre, on va écouter un petit extrait d'un documentaire qui date des années 80, qui était diffusé à l'époque sur TF1, produit et raconté par Jean-Marie Pelt, autour là, vous allez l'entendre, de la symbiose de la luzerne.
On sait aujourd'hui pourquoi toutes les légumineuses, comme la luzerne, enrichissent le terrain où elles poussent. Elles ont l'art de vivre en symbiose avec des bactéries qui leur permettent de pomper l'azote de l'air pour le fixer sur leurs racines sous forme de nodules. Les chercheurs français ont trouvé au Sénégal une légumineuse tropicale, Sesbania rostrata, qui fixe l'azote en nodules sur sa tige autant que sur ses racines et semble bien être la championne du monde de fixation d'azote. 200 kg par hectare et par saison. Mise à côté du riz, elle en double le rendement et la teneur en protéines. Les légumineuses nous prouvent en somme qu'en produisant pour s'enrichir, on peut très bien enrichir le voisin.
Voilà Éric Batteste, un exemple parmi tellement tant d'autres, hein, parce que ces exemples de symbiose, on en trouve à foison dans le vivant.
C'est vrai. Et pourtant, les spécialistes des symbioses se plaignent de n'avoir qu'une place marginale dans les théories de l'évolution. Mais rien n'existe et ne vit seul, indépendamment. Et donc ici, on est sur un très très bel exemple où on voit bien que la plante toute seule, sans les microbes autour, sans des champignons éventuellement autour, elle s'en sort très très mal. La plante, elle s'en sort pas. On a besoin de savoir tout ça parce qu'on a une question. Comment des organismes aussi différents se sont intriqués les uns avec les autres? Comment ce type d'évolution à plusieurs s'est-elle mise en place?
Alors, on est loin de la marginalité, justement, autour de la symbiose. On serait plutôt même dans des cas généraux, en tous les cas.
Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'organisme connu, d'organisme visible à l'œil nu, qui n'ait pas de symbionte associé. Ça, c'est les théories sur l'holobionte qui le proposent.
L'holobionte, qu'est-ce que c'est?
C'est un ensemble, une association entre, par exemple, un hôte animal et les microbes qui peuplent son corps.
Ça, c'est l'homme, par exemple.
Mais c'est l'homme, et c'est tous les animaux, et c'est les plantes. Et donc, par conséquent, on avait une idée un peu naïve. On regardait un homme, on disait cet homme-là, il est ce que la somme de ses gènes font de lui. Mais en fait, c'est probablement plus compliqué. Cet homme-là, il est ce que la somme de ses gènes plus la présence d'un certain nombre de microbes, certains sont là par hasard, d'autres non, font en association de lui. Donc oui, symbiose non marginale, mais théoriquement, comment la penser? Ça, c'est difficile.
Et pourtant, les exemples se multiplient.
Les exemples sont partout. Mais vous voyez, c'est une chose de dire, on a une modélisation au sein des populations pour identifier comment les formes de vie les plus aptes laissent des descendants qui leur ressemblent et qui sont aussi favorisés par la sélection naturelle. Là, on a des descendants qui ressemblent à leurs parents. Mais dans le cas de symbiose, on a plusieurs partenaires. Et donc, les descendants, c'est difficile de savoir dans quelle mesure ils ressemblent à un de leurs parents, à plusieurs de leurs parents. C'est très complexe à modéliser. Donc la symbiose, partout, mais difficile à modéliser.
Alors le cas par exemple d'Homo sapiens, notre espèce, on est quoi? On est une espèce hybride au fond, colonisée par tout un tas de choses?
Là encore, on n'est pas singulier dans cette mesure-là, mais oui, dans notre génome, dans notre ADN, il y a des séquences de virus et de transposons dans notre ADN, très profondément, comme tous les eucaryotes, ces organismes avec une cellule, il y a des instructions génétiques qui venaient de bactéries, premier grand groupe d'êtres vivants, d'autres qui venaient d'archées, deuxième grand groupe d'êtres vivants. Une chimère, cette cellule qui nous compose, associée à d'autres cellules qui ne sont même pas humaines, donc les microbes qui vivent en nous et avec nous.
Ouais, donc ça veut dire que nous sommes les porteurs, au fond, de toutes ces collectivités qui vous intéressent.
Et nous sommes multiples. Ouais. Nous sommes la preuve de l'évolution collective, oui.
Sophie demande, que veut dire justement l'évolution des processus d'évolution? Comment ces processus évoluent? Alors elle aimerait bien un petit éclaircissement.
Je vais vous donner un exemple. Il y a une manière de créer de la variation qui est très importante. Comment le vivant s'en sort? Eh bien, il se diversifie, il ajoute, il y a des mutations dans ses gènes. La méiose, qui est la reproduction sexuée, est une des manières d'introduire de la variation. Et ensuite, la sélection naturelle va trier entre les variants. Oui, mais la reproduction sexuée n'a pas existé de tout temps. La méiose n'a pas existé de tout temps. La reproduction sexuée est apparue avec les eucaryotes, il y a 2 milliards d'années. Avant, la vie existe depuis 3 milliards et demi d'années, il y avait d'autres manières de créer de la variation. Donc voilà un processus fondamental, la reproduction sexuée, qui n'existait pas avant, qui existe ensuite. Et tout le défi, c'est de savoir, peut-on comprendre l'origine d'un processus aussi important et aussi nouveau? Est-ce que c'est un développement de processus antérieur? On a un peu bricolé sur des processus qui étaient en place pour créer de la variation et on a créé une nouvelle manière de faire de la variation? Ou est-ce qu'il y a eu un bond de complexité?
Ouais, il y a plein de recombinaisons en permanence en fonction des nouveaux arrivants ou de ceux qui partent d'ailleurs, hein, parce que les organismes se composent de cette façon-là au fond.
Alors ici, quand je parle de la méiose et de la reproduction sexuée, je dis le spermatozoïde rencontre l'ovule et c'est avec les instructions génétiques de l'espèce qu'on va créer par brassage des nouveaux individus. Mais ce que vous me dites, vous, c'est en dehors du cadre des eucaryotes, chez les bactéries, il peut y avoir des gènes qui entrent et qui ne viennent pas forcément d'un papa, d'une maman, mais qui viennent d'un virus, mais qui viennent d'un plasmide. Donc c'est une autre manière de créer de la variation. Donc les processus évoluent, on ne sait pas dans quelle direction, il n'y en a pas forcément d'ailleurs de direction, c'est pas forcément des processus de plus en plus complexes, mais oui, il y a des processus nouveaux, de la même façon qu'il y a des êtres vivants nouveaux qui entretiennent des relations nouvelles.
Et c'est un nouveau regard porté sur ces organismes qui nous entourent, et nous faisons partie, Éric Battès, tous entrelacés, vous restez avec nous, suite et fin de notre discussion dans un instant.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, noir, jaune, rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous. Vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de césure, vous serez tous zazou comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis en plus des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef Scar, qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette, devant la guillotine, j'agène, dis je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'allumés. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand sur les douches, on chantera comme ça.
Brigitte Fontaine et M, il y a des azous.
La tête au carré.
Eric Batteste, Tous entrelacés, donc cet ouvrage paraît aux éditions Belin, pour en savoir plus justement sur ce qui compose le monde vivant et pour peut-être porter aussi un nouveau regard sur l'évolution, les choses avancent. Est-ce que ça suscite beaucoup de discussions, voire de controverses dans votre discipline, le fait justement de bousculer un petit peu la théorie de l'évolution et d'en proposer une nouvelle vision?
Je pense que ça fait partie constitutivement de la manière dont la théorie de l'évolution et l'évolution s'étudie.
Oui, ça a toujours été le cas, finalement.
Je pense, hein. Il y a des écoles dans la théorie de l'évolution qui s'affrontent pour dire mes objets d'étude sont plus importants, mes méthodes sont plus raisonnables, c'est normal. Oui.
Qu'est-ce qui domine en ce moment, alors, finalement?
Ça dépend des pays.
C'est vrai, toujours. Mmh. Ouais. Et en France, alors?
En France, j'imagine que c'est une vision assez classique avec la génétique des populations et la phylogénétique qui est prédominante, je pense.
Ça veut dire qu'il faudrait moderniser un petit peu la façon de concevoir les choses?
Non, moi, je ne suis pas du tout censeur et je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais je sais ce qui m'amuse, moi, d'étudier. Ce qui m'amuse d'étudier, c'est la complexité.
Exactement.
Avec des réseaux.
Et c'est bien ce que vous développez dans cet ouvrage pour retrouver les connexions, savoir qui connaît qui dans ce monde vivant, qui a rencontré qui a interagi avec qui. Et on le disait tout à l'heure, la parenté, ça ne suffit plus.
À mon sens, non. Le monde est complexe. S'il y avait juste un roman de l'histoire du vivant qui disait « Eh, monsieur machin est le fils de madame chose », ce ne serait pas très intéressant comme roman. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. La Terre s'est transformée, les interactions sont transformées, des nouveaux processus sont apparus. Il y a eu beaucoup de hasard. C'est beaucoup plus excitant de penser avec la complexité.
Ouais. Cette complexité, vous le disiez tout à l'heure assez rapidement, j'aimerais y revenir un petit peu avec vous, elle existait depuis l'émergence de la vie sur Terre?
Disons
les tout premiers micro-organismes.
Il est très difficile d'imaginer une forme de vie qui vive seule, en isolation, et qui ne soit pas influencée ou qui n'influence pas d'autres. Donc, dans les modèles que je connais, il y a plusieurs acteurs, oui.
Et déjà un foisonnement à l'époque.
Oui, alors après, ça ne veut pas dire que ces modèles sont vrais. C'est tellement hypothétique qu'est-ce qui se passait il y a 3 milliards et demi d'années. Mais effectivement, ce sont des schémas avec des communautés primitives, échangistes. Carl Woese appelait ça le projet Note, par exemple. Aucune protocellule seule ne peut s'en sortir. Elles n'ont pas assez d'instructions génétiques propres, donc elles les partagent. Elles partagent également de l'énergie. Et finalement, tout ce petit monde change tout le temps. Les composants de ce petit monde changent tout le temps.
D'ailleurs, vous revenez beaucoup sur les gènes. Hein, cette façon de penser le gène comme étant une chose acquise, qui exprime quelque chose de très particulier. Ben là, il faut prendre vraiment... il faut l'interpréter totalement différemment, parce qu'on n'est pas dans cette organisation-là des choses.
Hein. Le gène est une multiplicité. Il faut bien savoir qu'il est modulaire, composé de parties, et donc se poser la question quand et comment ces différentes parties se sont assemblées ensemble pour faire un gène. Les parties, c'est comme des pièces de Lego. Le gène, c'est la figure que vous avez construite avec ces pièces de Lego. Les mêmes pièces de Lego peuvent donc donner des figures différentes.
Ouais,
c'est l'évolution combinatoire même pour fabriquer les gènes.
Il faut imaginer ça quasiment comme des poupées russes en permanence et dans tous les domaines. Par exemple, un gène, ce pourrait être une sorte de poupée russe ou pas?
Alors ça, c'est un cas particulier, plus qu'un cas général. La poupée russe, c'est l'emboîtement. Moi, quand je parle des combinatoires, je pense plutôt mariage de lignées, je pense plutôt métissage, chimérisme. Mais l'emboîtement existe aussi, parce que certaines parties des gènes peuvent contenir d'autres gènes. Il y a des gènes emboîtés.
C'est
en fait, on connaît des gènes emboîtés dans des gènes emboîtés. On peut aller jusqu'à comme ça,
c'est
cette
ça.
Profondeur.
Mais on avait prévenu, c'est la complexité aussi, hein, ce monde du vivant. Estelle dit, est-ce que tous les groupes d'organismes sont influencés les uns les autres ou existe-t-il des modèles de groupes d'organismes isolés?
Moi, je ne les connais pas.
Ouais. Il n'y a pas de cas pour vous
Mais c'est très difficile d'imaginer ce que ça veut dire d'être isolé. Parce qu'une cellule, déjà, elle doit avoir finalement une perception de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc tout un tas de signaux qui décrivent ce qui se passe dans la cellule. Et ça, c'est déjà des réseaux de transduction du signal, des réseaux de régulation des gènes qui font parvenir ces informations sur l'intérieur de la cellule. Mais il n'y a pas que l'intérieur, il y a l'extérieur. Parce que la cellule, elle est dans le monde, elle reçoit des informations. Il fait chaud, il fait froid, il y a à manger, il n'y a pas à manger, il y a un compétiteur. Il n'y a pas un compétiteur. Et donc, imaginer des formes de vie qui soient isolées, c'est pour moi très contre-intuitif. Donc non, ça n'est pas quelque chose que je peux facilement imaginer.
Oui, parce que la vie n'existe au fond, ça pourrait être sa définition, que justement sur ces échanges, sur cette communauté que vous décrivez.
En tous les cas, ce qui évolue me semble évoluer de façon combinatoire en se complémentant, en s'associant et aussi en divergeant depuis des formes ancestrales.
Ouais. Est-ce qu'on arrive à modéliser ces évolutions justement ? Est-ce qu'il est possible de les anticiper un petit peu et de s'amuser à prendre un organisme et à se projeter dans des milliers d'années pour voir comment il va évoluer ?
Vous posez une question ici, qui est celle des contraintes. Vous dites, vous prenez un organisme avec ses instructions génétiques et puis jusqu'où il peut aller, jusqu'où il est flexible. Je fais varier un petit peu ses gènes, je les recombine un petit peu et j'arrive à quoi ? Mais finalement, moi je raconte autre chose. Je dis non, prenez pas un organisme isolé pour essayer de deviner qu'est-ce qu'il va devenir. Mettez-le dans une communauté plus large. Alors de suite, c'est beaucoup plus combinatoire, donc c'est beaucoup plus dur de prédire ce qui va se passer et différentes choses peuvent se passer. Un organisme qui rentre en endosymbiose à l'intérieur d'un autre peut disparaître. Ça, c'est une prédiction.
Ça veut dire quoi, l'endosymbiose ?
L'endosymbiose, c'est une cellule dans une cellule. Mm-hmm. Vous m'avez parlé d'un gène dans un gène. Avant, maintenant, je vous dis une cellule dans une cellule. Et ça peut se traduire sur un plan évolutif par l'apparition d'une nouvelle organisation cellulaire, l'hôte et son endosymbionte, mais aussi par la disparition progressive des endosymbiontes. Donc, une des directions de l'évolution peut être « je disparais ». Une autre direction de l'évolution peut être « je me panache ». Avec d'autres formes de vie qui sont environnantes. Et la question des contraintes sur ces panachages, eh bien, ça c'est justement ce qu'on aimerait bien savoir.
Oui, mais ça c'est extrêmement complexe. Il faut quasiment des algorithmes pour pouvoir modéliser tout cela si on a envie d'avoir tellement de combinaisons différentes, non ?
Pour représenter les réseaux, heureusement, nous avons la théorie des graphes qui est extrêmement puissante. Et dans un réseau, on peut représenter l'entité qu'on veut étudier à un nœud qui est relié à un autre nœud quand il y a une interaction. Qui interagit avec qui, ça se représente comme un alter. Qui, le premier nœud, interagit le lien, qui, l'autre nœud. Donc en fait, les réseaux, c'est des séries d'altères qui se touchent ou qui ne se touchent pas. Et ça peut s'étudier avec les modèles de théorie des graphes.
Tout ça, on l'apprend en lisant cet ouvrage qui s'appelle « Tous entrelacés, des gènes aux super-organismes ». Ce sont ces réseaux de l'évolution que vous venez de décrire, Éric Batteste. Et cet ouvrage vient de sortir aux éditions Belin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et ce soir, France 5 qui nous emmène en Égypte ancienne avec la série Toutankhamon, les secrets du pharaon. Perrine Pobo est en ligne avec nous. Bonjour Perrine.
Bonjour Mathieu.
Et la soirée sera consacrée au trésor du tombeau de Toutankhamon. Et cela va démarrer avec un documentaire qui s'intitule « Un roi guerrier ».
Oui, Mathieu, notre soirée portera sur le trésor funéraire exceptionnel du jeune pharaon qui a brièvement dirigé l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Alors, aujourd'hui, Toutankhamon reste l'un des pharaons les plus célèbres, hein, les plus étudiés probablement. Mais c'est pas tellement parce que son règne a été marquant, il n'a duré que 10 ans à peine. C'est en fait parce que sa tombe a été retrouvée presque intacte, ce qui est très exceptionnel, et qu'elle représente une véritable mine d'informations sur l'Égypte ancienne et sur le règne de Toutankhamon lui-même. Mais malgré toutes les recherches depuis la découverte du tombeau en 1922, on sait finalement peu de choses du jeune roi.
Alors quand même, après de longs travaux, Perrine, le Grand Musée d'Égypte va prochainement ouvrir ses portes au public près de la Grande Pyramide de Gizeh, hein, c'est ça ? Et pour la première fois, ce musée va proposer aux visiteurs la totalité des 5300 objets qu'abritait le tombeau.
Oui, et ce sera vraiment un événement. Et pour les égyptologues, c'est l'occasion unique d'analyser et de restaurer cette collection avant de les présenter au public et de comprendre qui était vraiment Toutankhamon et au passage de contredire quelques idées reçues.
Eh bien, on écoute ensemble un extrait du documentaire de ce soir, Toutankhamon, les secrets du pharaon.
Dans le tombeau, Howard Carter a découvert 6 chars, 7 boomerangs, des dizaines d'arcs, des centaines de flèches, 8 boucliers et une série d'armures très sophistiquées. Donc, ce n'était pas seulement un trésor, il y avait là un véritable arsenal.
Voilà, Perrine Pobo, derrière l'archéologue Chris Nunton qu'on vient d'entendre, reste là à l'instant le portrait d'un roi véritablement prêt au combat. Hein.
Oui, on est loin de l'image de l'enfant roi fragile. Toutankhamon est mort vers l'âge de 18 ans. Mais en fait, c'était déjà un souverain adulte. En Égypte ancienne, on devenait adulte à 14 ans. Et en effet, on a affaire à un roi guerrier accompli qui menait ses armées au combat. Et son vrai visage se révèle grâce à 3 objets uniques de la collection, dont on verra l'analyse dans notre film de ce soir. Mmh. D'abord, son poignard favori, qu'on a retrouvé dans les bandelettes de sa momie. Ensuite, son armure de cuir. Et puis, enfin, un panneau magnifique qui décorait un de ses chars royaux. et qui montre le souverain en train de combattre ses nombreux ennemis, notamment Nubiens, Hittites et Assyriens.
Voilà, c'est Toutankhamon, les secrets du pharaon, ce soir sur France 5 dans la case Science Grand Format, et c'est à 20h50. Perrine Poubeau, merci beaucoup, à bientôt.